Alors bonjour tout le monde, c'est Jean-Paul qui est avec vous et on a une nouvelle émission ce matin, une émission pas mal intéressante parce qu'on va parler de vos rêves, on va parler de ce qui nous fait rêver et on est avec un spécialiste des rêves qui est avec nous ce matin, c'est M. Jean Gagliardi. Bonjour Jean.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va très bien.
J'ai d'entrée de jeu, je voulais vous demander ce que vous avez bien, est-ce que vous avez rêvé cette nuit?
Oui, en effet, j'ai rêvé cette nuit. Oui, j'ai rêvé cette nuit. C'est un rêve qui m'habite encore. Qui m'accompagne ce matin. J'en parlerai tout à l'heure un petit peu.
Bon, ok. Alors notre émission s'appelle Les rêves vous parlent. Alors d'ailleurs, on va prendre vos téléphones, chers auditeurs, là, si vous avez des questions. Est-ce que tu interprètes aussi certains rêves,
j'imagine? Oui, tout à fait. J'interprète les rêves. Okay. Les gens peuvent appeler pour poser une question, pour partager une réflexion autour des rêves, pour partager un rêve. Et à partir de là, on verra ensemble s'ils ont envie d'une interprétation, simplement d'un commentaire. Mmh. Voilà,
la
ligne est ouverte.
c'est bien. Est-ce que tout le monde rêve?
Oui, tout le monde rêve. Oui. Tout le monde rêve. On a des preuves physiologiques de ça, puisqu'on fait des études en laboratoire sur le sommeil. Et on sait que le rêve, c'est un moment particulier dans la nuit, un moment de sommeil. Dans le sommeil, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, c'est un moment où... le cerveau entre en activité pendant la nuit, une activité aussi intense que le jour, que dans la vie diurne. Mmh. Et il se passe pendant quelques minutes une activité comme ça très très forte du cerveau, très intense. Par contre, tout le monde ne se souvient pas de ses rêves.
Ah, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui disent « moi je rêve pas jamais ». Alors, toi, tu prétends que non, c'est faux.
Alors, en effet, c'est ça. C'est que physiologiquement, on sait vraiment que tout le monde rêve, que c'est une nécessité pour le système nerveux. On a même prouvé que si on empêchait des gens de rêver, au bout de 2 ou 3 jours, ils commençaient à friser la folie, tout simplement. Mmh. C'est comme le système nerveux ne pouvait pas se décharger de quelque chose qu'il a accumulé. Par contre, il y a autour de 2 à 3 % des gens qui ne se souviennent absolument pas, jamais, de leurs rêves. Ça, c'est prouvé aussi. Par contre, à l'autre extrême, il y a 5 à 10% des gens qui se souviennent toutes les nuits de 1 à plusieurs rêves, qui ont une vie onirique aussi riche que leur vie quotidienne.
Pourquoi on en fait plusieurs rêves la nuit? Est-ce que ça dépend de la condition de notre santé? Je sais pas, là.
Non, c'est tout simplement, ça va avec le cycle du sommeil. En fait, quand on dort, on rentre dans un cycle qui dure à peu près 1h30, dans lequel on commence par descendre en sommeil profond. Et puis, à la fin de ce cycle de sommeil profond, on va dans ce qu'on appelle donc le sommeil paradoxal, où pendant quelques minutes, le cerveau s'active. Et on est tout proche de l'éveil à ce moment-là. C'est pourquoi il arrive assez fréquemment qu'on se réveille directement d'un rêve. Et si on ne se réveille pas, c'est le moment où on va repartir dans un nouveau cycle de sommeil profond. Donc, on a une période de rêve à peu près toutes les heures et demie pendant la nuit.
Ah, ok. C'est ça qui fait qu'on a des rêves différents.
C'est ça qui fait qu'on a des rêves très différents, en effet, parce qu'il semble par ailleurs que la psyché processe les rêves... les rêves des différentes heures de la nuit ne portent pas tout à fait sur les mêmes choses. C'est comme si au début de la nuit, on commence par digérer les événements du jour, essentiellement, et plus on va vers le matin, et plus les rêves nous parlent de préoccupations profondes.
Ok. J'ai souvent fait la comparaison, corrige-moi si t'es d'accord ou pas. En informatique, tout le monde a un ordinateur à la maison parfois on doit ce qu'on appelle défragmenter le disque dur. Est-ce qu'on peut comparer ça à un rêve la nuit? Notre cerveau se défragmente.
C'est une excellente image. C'est d'ailleurs peut-être la meilleure façon de parler des rêves, c'est toujours par image, justement. Ouais. C'est difficile de passer. Là, c'est vraiment une très belle métaphore. c'est une des fonctions du rêve. Il y en a plusieurs, mais une des fonctions du rêve, c'est clairement une remise à plat, une remise à neuf de la psyché après une journée éprouvante, après différents événements qui se sont passés, dans lesquels bien souvent on n'a pas pris la mesure de tout ce qui se passait. Il reste des choses, comme on appelle ça, dans l'inconscient. Dans l'inconscient, ça veut dire juste qu'on n'en est pas conscient. On n'est pas conscient de la portée de certains événements. On n'est pas conscient de certaines émotions qui nous ont affectés, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, il faut passer à autre chose, il faut faire autre chose. Et tout ça s'accumule dans le système nerveux. Et la première chose qui se passe avec les rêves, eh bien, c'est qu'il s'opère un nettoyage et une digestion des événements du jour.
Donc c'est nécessaire.
Donc c'est tout à fait nécessaire. Comme je le disais tout à l'heure, des expériences ont montré que si on empêche quelqu'un de rêver, c'est-à-dire si on le réveille au moment du sommeil paradoxal, qu'on repère très bien parce que... quand on rêve, nos yeux rentrent derrière nos paupières closes en action. Ils commencent à bouger et on appelle ça le rapid eye movement. On peut voir que quelqu'un est en train de rêver pendant qu'il dort au simple fait que ses yeux commencent à frémir. Okay. Et donc, en laboratoire de sommeil, on a réveillé des volontaires au moment où ils commençaient à rêver. Et au bout de quelques jours de ce régime-là, eh bien, leur système nerveux commençait à capoter, pourrait-on dire.
oui, c'est le cas de dire. Alors, est-ce que... moi, quand j'étais jeune, nos parents nous disaient, ben, il faut pas manger avant de se coucher ou faire attention de bien préparer notre nuit de sommeil parce que ça peut influencer les cauchemars, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ça a du sens, ça a de la valeur. J'ai moi-même fait l'expérience à un moment de rentrer dans une période où je mangeais très très peu le soir et j'ai été absolument épaté par l'intensité, la clarté des rêves que j'avais pendant la nuit. Ça va avec le fait que pendant le sommeil, l'organisme commence par réguler le corps avant de réguler le mental. Donc si le corps est surchargé, si la digestion est surchargée, on va avoir plus de difficultés à accéder à des rêves clairs. On risque d'avoir beaucoup plus des rêves qui vont traduire les désagréments finalement organiques qui sont en train de se produire.
OK. Donc, faut faire gaffe avant d'aller s'installer au lit pour la nuit.
Hein. C'est la bonne logique d'ailleurs de la diététique. Il paraît qu'il vaut mieux peu manger le soir. Nous n'avons pas besoin pour passer la nuit de beaucoup d'énergie. C'est plutôt le petit déjeuner auquel on a besoin de se nourrir qui est important. Donc, tout ça se tient.
Oui. Alors, je vais inviter nos auditeurs, auditrices, si vous avez des questions à poser à Jean, ben, gênez-vous pas, Jean est là pour répondre à pas mal de questions, comme vous le voyez, il y a réponse à tout sur les rêves. Alors, vous faites tout simplement, dans la grande région de Laval, ben, vous faites le 450-680-1570, et si vous êtes à l'extérieur, ben, on a un numéro sans frais, c'est le 1-866-895-3142. 1-866-895-3142. Alors, pour toute question qui vous intéresse finalement, même des interprétations de rêves. Moi, j'en aurais juste une question. Si on fait des rêves récurrents, par exemple, moi, j'en ai fait, mais c'est terminé maintenant, mais j'appelle ça un rêve récurrent, là, où, à raison, je sais pas, une fois par semaine, je rêvais que je passais sur un pont et que j'avais peur de tomber. Je sais pas d'où ça vient. Alors, les rêves récurrents comme ça, c'est dû à quoi? Est-ce que je dois m'en inquiéter d'abord?
T'en inquiéter, non. Mais un rêve récurrent, c'est un rêve qui porte un message qui revient. Et tant qu'il n'a pas été entendu, ce message revient. C'est un message qui frappe à la porte et qui se signale justement par le fait qu'il se répète. Et il attire l'attention en se répétant à peu près toujours sous la même thématique. Et d'ailleurs, à partir du moment où ce rêve est entendu, où le message est entendu, le rêve disparaît ou le rêve se transforme. Et j'aurai un exemple. Oui. J'ai entendu une fois comme ça le rêve d'une femme qui était poursuivie très régulièrement dans la nuit par un taureau. Très régulièrement, depuis des années, elle vivait une frayeur. Ce taureau la poursuivait et elle lui échappait de justesse. Et puis, en discutant avec elle, je me suis rendu compte que parce qu'on interroge toujours finalement le contexte du rêve, on a besoin de comprendre quel est le contexte conscient du rêve, que cette personne faisait face à une difficulté dans sa vie, c'était tout simplement qu'elle avait une petite business, elle fabriquait des bijoux, mais elle ne trouvait pas le courage, l'énergie de sortir de chez elle pour aller frapper aux portes, et pour aller vendre ses bijoux. Okay. Et à partir du moment où on a vu ensemble que cette force, ce taureau, c'était une force dynamique qui est capable de défoncer des portes, qui non seulement frappe aux portes, mais les ouvre tellement, tellement c'est fort, et qu'elle avait cette dynamique-là en elle, et qu'elle avait cette envie de sortir de chez elle pour aller vendre ses bijoux.
Mais elle n'osait pas.
Elle n'osait pas. Et ça lui faisait peur, exactement comme ce taureau la poursuivait en rêve. Le rêve a changé. Quelques semaines après, elle m'a rappelé pour me dire que le taureau était revenu dans ses rêves. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Oups, j'ai pas donné la bonne interprétation ». Et elle m'a dit « Non, non, maintenant c'est un taurillon et il faut que je lui donne le biberon ».
Ah bon?
Le fait d'avoir été entendu transforme le rêve.
Oui, ah ok.
Et le rêve commence à évoluer, et le rêve commence à montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui a été compris dans le rêve.
Ah,
donc,
okay.
Voilà l'exemple d'une interprétation de rêve, finalement relativement simple. Un taureau qui lui faisait peur. Le taureau était associé donc à une émotion. Il s'agissait d'aller voir qu'est-ce qui lui faisait peur, mais qu'est-ce qui en même temps la poursuivait, ce à quoi elle savait qu'elle ne pourrait pas échapper tôt ou tard.
C'est inévitable.
C'était inévitable qu'elle ait à sortir de chez elle pour vendre ses bijoux. Et l'ayant fait, le rêve s'est transformé et il a fallu ensuite qu'elle continue à nourrir cette force en elle, à nourrir ce courage pour sortir de chez elle.
Mmh, c'est bien. Alors, ben, on va faire une pause, si tu permets, et je vais encore une fois inviter nos auditeurs à nous appeler si vous avez un rêve comme ça que vous aimeriez savoir un petit peu l'interprétation. Vous savez, des questionnements de façon générale sur les rêves, ben, vous nous appelez tout simplement. C'est Jean Gagli. Hardy, excusez-moi, c'est 450-680-1570, c'est le numéro de la grande région de Laval. Et si vous êtes à l'extérieur, c'est sans frais 1-866-895-3142. On fait une petite pause et on revient tout de suite après.
Ici Danielle Ouimet. Savez-vous comment nous pouvons recycler les bouteilles de plastique des boissons gazeuses de 2 litres? Nous pouvons faire des sacs à dos, des casquettes, des t-shirts, des vêtements polars et même des tentes. Les canettes d'aluminium usagées peuvent se transformer en meubles de jardin, en papier d'emballage et pièces automobiles. Quant aux bouteilles de verre, elles donnent naissance à des matériaux isolants, de la peinture réfléchissante, des carreaux de céramique et d'autres bouteilles. Recycler, c'est intelligent parce que chaque petit geste est important.
Un message de la Fondation québécoise en environnement.
Voici les prévisions de la météo selon Environnement Canada. Neige intermittente aujourd'hui, on prévoit une accumulation de 2 à 4 cm avec de la poudrerie par endroit, des vents du nord-est de 30 à 50 km/h et un maximum prévu de 1 degré. Pour ce soir et cette nuit, ce sera nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige avec des vents de l'ouest de 20 km/h et un minimum de moins 2. Un regard pour demain vendredi, ce sera nuageux, 60% de probabilité d'averse de neige et des vents du sud-ouest de 20 à 40 km/h et un maximum prévu de 0 degré. Le soleil s'est levé à 7h25 ce matin, se couchera à 16h11. Et de la part de toute l'équipe du 1570 Radio Mieux-être, nous vous souhaitons d'agréables moments à notre antenne.
Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Au cœur de l'action à Laval, le bistrot Le Saint-André vous invite à découvrir ses spéciaux du midi. Plats mijotés, salades, poissons, tout pour vous mettre l'eau à la bouche dans une ambiance chaleureuse particulièrement amicale. La cuisine est ouverte de 10h à 16h du lundi au vendredi. Située à deux pas au nord du boulevard des Laurentides et de la Concorde, le bistrot Le Saint-André, 664 rue Saint-André à Laval. On y va parce qu'on y mange bien et on y revient parce qu'on s'y sent bien.
10h17, on poursuit notre émission. Le rêve, les rêves nous parlent avec Jean Gagli-Hardy. Jean, on a déjà un appel.
Ben, merveilleux.
On va répondre à Mme Isabelle de Montréal. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Voilà, j'ai une question. C'est donc concernant les rêves. Souvent le matin, je me réveille, je sais que j'ai rêvé. J'ai vraiment ce sentiment d'avoir rêvé, mais impossible de me souvenir de ce rêve, ou vraiment de très très vagues images. Donc j'aimerais savoir si déjà ça a une signification particulière de ne pas s'en souvenir, et également si il y a des techniques ou des moyens pour aller retrouver ces rêves.
Merci pour cette question. C'est une question bien fondamentale. C'est souvent la question d'ailleurs qui m'est le plus souvent posée, c'est comment se souvenir de ses rêves. Et là, on va rester déjà avec simplement le rêve du matin, comme ça, dont on sait qu'il est présent, qu'il a été là, mais qui s'est évaporé, qui a disparu. La première chose à savoir, c'est que la mémoire du rêve n'est pas dans le cerveau, en fait, mais dans le corps. C'est encore les recherches dans le laboratoire de sommeil qui l'ont prouvé. C'est-à-dire que pour se souvenir de ses rêves le matin, la meilleure chose à faire, c'est de rester immobile pendant une dizaine de minutes, en restant simplement avec le sentiment que nous a laissé le rêve au réveil. Et c'est dans cette immobilité, c'est dans cette attention, qu'on pourrait presque dire méditative, qu'il est fréquent que les images de rêve remontent, reviennent. C'est à tel point que si on sait qu'on s'est endormi dans une autre position que celle dans laquelle on s'est réveillé, on peut, après ces 10 minutes, on peut changer tout doucement, très lentement de position, pour aller reprendre la position du début de la nuit. Et si on passe à nouveau 10 minutes, très tranquille, simplement à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, il est fréquent que des images de rêve remontent. Mais alors, ça veut dire qu'on évite un réveil brutal, ça veut dire qu'on évite d'avoir un cadran qui sonne, la radio qui se déclenche, et qu'aussi, ça nous prend des conditions un petit peu privilégiées, qui sont de ne pas avoir à se dépêcher le matin pour accompagner les enfants à l'école ou pour aller au travail. Donc c'est sûr que c'est pas facile de toujours avoir cette attention. Mais vraiment, la première chose pour se souvenir de ses rêves, ou en tout cas la technique la plus efficace pour se souvenir des rêves du matin, quand on a ce sentiment un peu indéfinissable du rêve, évaporé, enfoui, c'est de rester avec ce sentiment, c'est de tourner autour en restant immobile, en respirant, en faisant attention. Et c'est curieusement dans cette immobilité du corps qu'il y a quelque chose qui se réveille.
D'accord. Donc il ne faut pas être pressé le matin et éviter effectivement d'avoir un réveil brutal.
Voilà, ça c'est vraiment la première chose.
Bon, merci beaucoup.
Bon, okay. Merci pour votre appel.
Merci beaucoup pour l'émission. Bonne journée, au revoir.
Merci. Bonne journée, au revoir.
Merci Isabelle d'avoir appelé. Alors, si vous avez des questionnements comme ça, je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 450-680-680. 1570 pour la région de Laval, et le numéro sans frais pour les gens de l'extérieur, c'est le 1-866-895-3142. Alors Jean, on va continuer à parler des rêves. Tu avais préparé quelques thèmes, quelques sujets.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet d'introduction, finalement, qui est bien typique, qui consiste simplement à s'intéresser à... Mais pourquoi écouter les rêves? Qu'est-ce que c'est la valeur d'écouter les rêves? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos rêves, hein? Pour la plupart des gens, et c'est très logique, les rêves, ce sont juste des rêves, comme on dit. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve, et ça dit bien dans ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas important. Ce qui est important, ce sont les choses qui nous occupent dans la journée, ce sont nos préoccupations professionnelles, familial, les factures à payer. Et cependant, on passe à côté de quelque chose. On passe à côté de quelque chose de très très important, parce que les rêves donnent une profondeur, en fait, donnent une nouvelle perspective à ce qu'on vit pendant le jour. C'est comme si on ne s'occupe pas de nos rêves, comme si on ne vivait qu'à la surface de nous-mêmes, à la surface de notre vie. et qu'on passait à côté de grandes richesses que nous avons à l'intérieur et qui vont nous permettre de voir la vie avec sous des angles différents et avec une, encore une fois, une nouvelle profondeur. Et c'est intéressant, important de savoir que nous sommes la seule civilisation, depuis qu'il y a des civilisations sur Terre, et en tout cas pour ce qu'on en connaît, qui n'accorde aucune importance, à part dans le cabinet du psychologue, aux rêves. Artémidore, qui était un interprète des rêves de l'Antiquité, disait que les dieux ne pouvaient mentir aux Romains en rêve, pourvu que ces derniers pénètrent le sens de leurs réponses. Alors c'est tout le thème de cette émission, les rêves nous parlent. Les rêves nous parlent tous les jours, toutes les nuits. Mais évidemment, la difficulté, c'est d'entendre ce qu'ils nous disent.
Justement, tu as fait un lapsus toutes les nuits, mais on peut rêver le jour aussi.
Ah, absolument, on peut rêver le jour. On peut rêver le jour quand on fait une sieste. Et même en réalité, si notre conscience n'était pas aussi bruyante, littéralement, si elle ne nous emplissait pas là, sans arrêt de mots et de réflexions, on se rendrait compte qu'il y a des images de rêve qui nous viennent sans arrêt. Je vous suggère une petite expérience. La prochaine fois que vous vous retrouvez dans un endroit, par exemple, inconnu, ou à attendre une personne que vous ne connaissez pas, fermez les yeux. Prenez juste quelques secondes pour rentrer à l'intérieur de vous-même, faire le vide, et laisser venir une image. Une image dont ce qui sera important, c'est l'émotion, le sentiment qui est associé à cette image. Et puis, prenez-en note mentalement et regardez ce qui se passe après. Regardez qu'il y a cette personne qui vient vous voir, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Regardez ce qui se passe dans cet environnement nouveau que vous découvrez. Et un peu plus tard, prenez le temps de regarder comment votre image et ce que vous avez vécu, ça peut aller ensemble. Et vous pourriez avoir des surprises. Vous verrez qu'on a sans arrêt à disposition, comme ça, une intelligence à l'intérieur de nous, qui est, qu'on peut qualifier d'être l'intelligence du cerveau droit, l'intelligence qui nous parle par image et par émotion, et non pas par mots et par raisonnement, et qu'elle nous alimente sans arrêt d'informations.
C'est pas ce qu'on appelle un rêve prémonitoire. Est-ce que c'est comparable ou...
C'est proche, mais en fait prémonitoire, c'est que nous avons sans arrêt beaucoup plus d'informations à disposition que ceux dont nous sommes conscients. Alors en effet, dans l'étude des rêves, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il y a très souvent des rêves qui nous parlent du futur. C'est une des difficultés de l'interprétation des rêves. Comment interpréter un rêve qui nous parle de quelque chose qu'on ne connaît pas encore? C'est en lui prêtant attention qu'on se rendra compte vraiment de la valeur du rêve dans les jours qui suivent. Il y a une petite métaphore informatique qui éclaire bien qu'est-ce qui se passe. Il faut savoir que notre conscience n'est capable de processer, pourrait-on dire, que 2000 bits d'informations par seconde.
Okay.
Pendant que notre organisme total reçoit 2 millions de bits par seconde, c'est-à-dire un facteur 1000. C'est toutes les informations que nous recevons par nos sens sans que nous en soyons conscients. Vous savez, par exemple, se produit un accident, on interroge les témoins et chaque témoin a une vision différente de l'accident et chacune de ces visions sont justes. Maintenant, si on hypnotise ces personnes et qu'on leur demande de raconter à nouveau cette scène, il y a soudain des détails dont ils n'étaient absolument pas conscients qui ressortent. Tout d'un coup, il y a une conversation qui se déroulait à 50 mètres d'eux et qu'ils n'entendaient pas de façon consciente, mais dont ils ont capté des éléments et qu'ils ont entendu. Ils ont pu entendre le crissement d'un pneu bien avant, quelque part, que leur conscience l'ait reçu. Alors,
le cerveau ne l'a pas enregistré, on peut
le dire. Cerveau ne l'a pas enregistré et surtout, le cerveau filtre l'information qui est utile. Ah. Imaginez si nous étions sans arrêt débordés d'informations. Ça nous prendrait beaucoup, beaucoup d'efforts pour processer tout le temps cette information. Et cependant, cette information est disponible et elle nous est restituée par les rêves et par, en fait, cette capacité qu'a notre organisme total de communiquer avec nous à travers des images.
J'aime ça, tu dis processer, encore comme un ordinateur, on va dire le processeur de l'ordinateur gère tous nos programmes et tout ça.
C'est certainement une métaphore valable pour le cerveau. Hein. Vous savez qu'en philosophie, on explique que l'être humain n'a développé des outils qui n'étaient que des extensions de ses différents organes. Hein. La pelle et la pioche, c'est une extension de la main. La voiture et le train sont des extensions de nos pieds. L'ordinateur, c'est l'extension vraisemblablement de notre cerveau. Et en effet, c'est là qu'il y a quelque chose de très très intéressant, c'est comme si notre cerveau, dont on croit sans doute à tort, de mon point de vue en tout cas, qu'il est le siège de notre conscience, c'est un ordinateur, c'est essentiellement, il se comporte, je suis informaticien à l'origine, donc je sais de quoi je parle de ce côté-là, il se comporte vraiment comme un processeur d'information, hein. Il trie l'information et il l'oriente, il la qualifie, il évalue très vite si cette information est utile ou pas. Mais en réalité, notre intelligence totale, elle se manifeste dans tout notre organisme et elle ne repose pas sur un ordinateur, elle est vivante. Et c'est ça qui est assez fascinant.
Parce que j'allais te poser la question, le processeur, quand on éteint l'ordinateur, le processeur ne fonctionne plus, il est arrêté. Alors quand on dort la nuit, est-ce qu'on peut... Là, ça ne fonctionne plus, là.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, la métaphore est très intéressante. C'est de la même manière que quand on met un ordinateur en veille.
Ah, OK.
Il n'est pas complètement éteint, ce cerveau. On va pouvoir raisonner dans nos rêves, on va éventuellement continuer à dialoguer avec ça. Mais tout simplement, son filtre qui élimine l'information pendant la journée et qui nous concentre seulement avec l'information utile pour notre survie et pour l'accomplissement de nos objectifs conscients, ce filtre-là est levé et tout d'un coup, on a accès à beaucoup plus d'informations. Une information qui peut concerner nos objectifs conscients, qui peut concerner notre survie, mais qui va aussi concerner notre être profond, notre organisme total. Mmh. Et ce qu'on pourrait appeler, en faisant très attention aux mots et à ce qu'ils peuvent impliquer, notre âme.
OK, oui. Okay. Ah, l'inconscient. Hein?
L'inconscient, alors l'inconscient, c'est un gros mot. Hein. C'est un gros mot, je veux dire par là, c'est un mot difficile à manier. Ouais. Il y a beaucoup de définitions de l'inconscient, et d'ailleurs, c'est assez étrange parce que, en réalité, pour les pères fondateurs de la psychanalyse, pour Sigmund Freud et pour Carl Jung, l'inconscient, c'est simplement ce dont nous ne sommes pas conscients. C'est ce qui participe à notre psyché, mais dont nous ne sommes pas conscients, et qu'on ne peut donc pas connaître directement. On ne peut le connaître, on ne peut y accéder qu'à travers...
Le raisonner aussi. Hein.
Le raisonner, on ne peut le connaître qu'indirectement, donc à travers les rêves, à travers les impulsions, à travers choses qui nous viennent sans qu'on ait aucune idée d'où ça vient, à travers nos lapsus, à travers nos actes manqués, à travers nos étourderies, nos omissions. Toutes les fois où notre inconscient tout d'un coup se mêle de notre vie consciente et dit « ça ne se passera pas tout à fait comme tu veux, je suis là
». Ah ben c'est bien. Alors on va faire une autre pause si tu le permets et j'invite encore une fois les auditeurs à nous appeler, à t'appeler si vous avez des questions d'interprétation qui concernent vos rêves, ce que vous vivez la nuit. Alors 450-680-1570 et sans frais les numéros, c'est le 1-866-895-3142, évidemment, sans frais. On revient tout de suite après ça.
Radio Mieux-Être vous invite à l'émission « Loin des yeux, près du cœur », tous les dimanches à 11h. La seule émission francophone qui aborde le domaine des retrouvailles. Informations et témoignages de personnes à la recherche d'un parent biologique ou enfant laissé en adoption à la naissance. Découvrez des gens qui sont à la recherche de leur identité et de leur dignité. Loin des yeux, près du cœur, avec Normé Saint-Pierre, est une présentation du mouvement Retrouvailles, organisme sans but lucratif, qui compte plus de 13 000 membres au Québec. En exclusivité sur les ondes de Radio Mieux-Être, tous les dimanches à 11h et en rediffusion à 19h. Radio Mieux-Être, un rendez-vous avec la vie.
Alors, on continue. Les rêves nous parlent. Il n'y a pas que la radio qui parle, nos rêves aussi. Et on est en compagnie d'un spécialiste des rêves, Jean Gagliardi. Jean, on n'a pas parlé au début. J'aurais aimé savoir un petit peu ton parcours. Quels sont tes... pas tes origines, mais je veux dire ton parcours, c'est ça. T'en es venu comment aux rêves?
Oh, j'ai l'impression d'être arrivé quasiment avec les rêves.
Ah oui?
C'est un sujet de passion. C'est un sujet de passion. Depuis l'âge de mes 15 ans, j'avais conscience que les rêves me disaient quelque chose de très très important. Je me souviens d'une nuit assez décisive pour moi. J'avais un choix à faire et j'ai fait 6 rêves dans cette nuit-là. Et je me suis creusé la tête pendant des jours et des jours pour comprendre qu'est-ce que ces rêves pouvaient me dire. Alors, c'est ça, les rêves, je dirais, c'est vraiment une passion de longue date. Et j'ai commencé, comme beaucoup de gens, j'ai commencé par lire à propos des rêves, à m'intéresser à la spiritualité, à la psychologie des rêves. Mais tant que je lisais, ne pouvais que rester à la surface, finalement. Et ce qui m'a vraiment permis de commencer à travailler vraiment mes rêves, ça a été de rentrer dans une formation tout à fait traditionnelle, l'ancienne façon, en tout cas en Occident, d'apprendre à travailler avec les rêves, c'est-à-dire d'aller faire une analyse, d'aller travailler avec un analyste toutes les semaines, lui apporter mes rêves et entendre ses interprétations et lui proposer mes propres interprétations pour voir qu'est-ce qui en ressortait. C'est vraiment la façon que recommandaient Carl Jung et Sigmund Freud à une époque où il n'y avait pas vraiment de formation en psychologie à l'université. Et même encore aujourd'hui, malheureusement, à l'université, en psychologie, on n'apprend pas à écouter ses rêves.
Ah non?
Alors, 20 années d'analyse, comme on appelle ça, didactique, c'est-à-dire une analyse qui permet d'apprendre, une analyse sur laquelle on travaille sur l'apprentissage. Et puis de nombreux ateliers, de nombreuses formations diverses et variées. J'ai eu la chance, et je veux profiter pour lui rendre hommage, de rencontrer un vieux monsieur qui s'appelle Nicolas Bornemitscha, qui a mis au point une méthode qu'il appelle la méthode du yoga psychologique, et avec qui j'ai commencé à collaborer à partir de 2003 au développement de sa méthode. Et c'est une méthode justement de travail sur les rêves et sur l'imagination. Et c'est une méthode qui considère les rêves dans la même finalité que l'Orient considère le yoga, c'est-à-dire les rêves comme un moyen de se libérer, comme un moyen d'accéder à la plénitude de notre vie, de notre existence. Et Nicolas, qui est pour moi un mentor, m'a donné une formation extrêmement importante, m'a encouragé à partir de 2003 à donner des consultations, à donner des ateliers et de l'enseignement, enfin des cours sur l'interprétation des rêves. Et puis une autre rencontre importante que je ne peux éviter de mentionner, c'est celle d'un éveillé contemporain qui s'appelle Richard Moss. Richard est un médecin qui a eu une expérience d'éveil dans les années 70 et qui depuis se consacre quelque part à communiquer des moyens de devenir plus humain, pour prendre ses propres termes, et devenir tout simplement plus conscient. Et Richard a toujours accordé une immense importance à ses rêves. C'est une des composantes de son chemin. Il en commente, dans ses ateliers, il travaille les rêves. J'ai eu le bonheur de l'inviter à Montréal pour un atelier intitulé « Présence et rêves ». Et Richard m'a confirmé dans ce qui était une intuition pour moi depuis longtemps, à savoir que les rêves et le travail des rêves et la méditation se croisent, se rencontrent. Que c'est finalement ces deux angles d'approche de la même chose. Okay. Un peu comme on escaladerait une montagne par le versant nord ou par le versant sud.
Okay. Alors, on a un téléphone. C'est Madame Danielle de Montréal. Bonjour, Danielle. Parlez plus fort, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Moi, j'ai fait un rêve il y a quelques années qui m'a marqué et qui est toujours présent. Et je voulais savoir si je peux l'interpréter à partir de votre méthode.
Très vraisemblablement, en tout cas, je peux vous proposer des pistes pour essayer de comprendre ce rêve. Déjà, bonjour Daniel, oui, bien sûr. Vous allez voir, l'interprétation, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas comme justement un programme d'ordinateur dans lequel on rentrerait un rêve et puis l'interprétation en sortira. C'est un art. Mais je peux vous suggérer en effet des pistes pour aller voir ce qu'il y a dans votre rêve. Alors, est-ce que c'est un rêve que vous voulez raconter à l'antenne ou est-ce que vous voulez tout simplement que je vous donne des informations ? Vous voulez le raconter ?
Je peux le raconter.
Ben, bien volontiers.
Oui, bon, alors j'étais adolescente dans mon rêve et j'ai trouvé dans un couloir qui menait à l'oratoire Saint-Joseph une immense araignée qui était peut-être de 1 mètre de haut. Très, très belle, avec un velours et tout. Et je me suis attachée à l'araignée. Elle m'a suivie jusque chez moi. Et dans la famille, tout le monde était estomaqué. Je la prenais sur moi, je la berçais avec ses pattes de chaque côté et tout. Et à un certain moment, mon père me dit, tu dois donner ton araignée au Musée des sciences naturelles d'Ottawa parce qu'ils en ont entendu parler, ils veulent la voir, l'examiner et tout. Et j'ai pleuré, je ne voulais pas la donner, et je me suis réveillée en pleurant. Et ce rêve est resté marqué toutes ces dernières années. Pour moi, là, c'est très important, mais je ne sais pas pourquoi.
Merci, c'est un très beau rêve déjà. Hein. C'est vraiment... merci de nous partager ce rêve-là. Alors, vous voyez, la première chose avec les rêves, vous l'avez tout de suite nommé, c'est quelque part, c'est de faire attention à l'émotion, au sentiment final du rêve. C'est-à-dire la première chose qui va vraiment nous servir comme d'un indicateur par rapport à la portée, le sens de ce rêve, c'est le fait que vous vous soyez réveillé en pleurs à l'idée qu'il fallait vous séparer de cette araignée. Donc cette araignée qui... une araignée, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui fait peur. Il y a des phobies des araignées, mais visiblement, c'est un symbole dans votre rêve pour quelque chose de très, très, très important. Quelque chose dont vous ne voulez pas vous séparer, hein, que vous ne pouvez pas perdre, au risque justement de frapper une grande tristesse. Une question qui est toujours fondamentale, très importante à se poser. Donc la première question qu'on se pose par rapport à un rêve, c'est quel est le sentiment final ou si c'est un rêve d'il y a très longtemps, quel est le sentiment qui me revient quand je raconte ce rêve? Et l'autre question qui est très très importante, c'est est-ce que vous avez une idée du contexte dans lequel le rêve vous est venu? Est-ce qu'il y avait une question particulière qui vous préoccupait à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait un événement dans votre vie peut-être qui peut avoir suscité le rêve ou quel le rêve peut avoir été une réponse?
Non, ça j'ai essayé de trouver, puis je n'ai pas trouvé. Je ne me rappelle pas des circonstances qui auraient permis l'émergence d'un rêve comme ça. Mais il y avait aussi dans les émotions, il n'y avait pas que les pleurs. Quand je me reporte à ce rêve, ce n'est pas de la peine que j'ai. C'est, je dirais, une espèce de fascination pour l'animal qu'habituellement on n'aime pas. Et moi, j'ai toujours gardé cette fascination pour l'araignée, depuis.
D'accord. Alors, déjà, de toute façon, en effet, vous avez plus le contexte, et c'est pas grave, je veux juste mentionner pour nos auditeurs comme à quel point souvent le rêve vient répondre aux préoccupations du conscient, à quel point c'est un dialogue. Mais il y a aussi des rêves qui nous arrivent, on pourrait dire, out of the blue, et qui nous portent comme ça un message qui vient des profondeurs, sans lien avec le contexte. Et ce qui est important, c'est comment le rêve continue à cheminer en nous. Et puis, merci pour cette précision, c'est très important, ça renforce vraiment l'attention que nous devons porter à ce symbole de l'araignée. Et au fond, c'est ce qui nous redirige, tout ce que vous me dites nous redirige sans arrêt vers... c'est quoi une araignée pour vous? Imaginez que je sois un extraterrestre, que je ne connaisse rien à notre planète. Comment vous pourriez me décrire ce qu'est une araignée?
Pour moi, c'est une artiste, c'est une grande travailleuse, c'est un animal qui s'adapte aussi facilement et qui construit rapidement. Pour moi, c'est une artisane qui construit, qui invente des choses avec ses toiles et tout ça. C'est de l'art pour moi quand je regarde une toile d'araignée.
Alors, je suppose que vous entendez vous-même dans ce que vous venez de dire, comment ce que vous venez de dire peut s'appliquer bien au-delà de vous-même, de l'araignée, probablement à une partie de vous-même. Hein? Il y a une araignée dans votre rêve et il y a très vraisemblablement une artiste, une grande travailleuse qui s'adapte et qui est une grande artisane en vous.
Ça, c'est pas bête du tout. Là, ça me sonne des cloches.
Ça vous sonne une cloche? Alors,
oui.
On va continuer parce qu'il y a un élément très intéressant aussi dans votre rêve, c'est l'endroit où ça se passe. Ça fait partie des trucs du travail de rêve. C'est toujours prêter attention à l'endroit, au lieu qui porte une signification. Et pour vous, l'oratoire Saint-Joseph, encore une fois, admettons, je suis un Français qui vient juste de débarquer au Québec, je ne connais rien. Qu'est-ce que c'est l'oratoire Saint-Joseph et qu'est-ce que c'est pour vous?
Ah, pour moi, c'est un endroit, j'ai été élevée à l'ombre de l'oratoire, dans le sens où on habitait tout près. Et pour moi, c'est un endroit où on rencontre une foule, beaucoup, beaucoup de personnes, où il y a des symboles spirituels intéressants, il y a une atmosphère surtout de paix. Quand j'y allais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de paix. Et en même temps, de la couleur, les odeurs, ce sont des choses qui m'interpellent beaucoup. Les odeurs, les couleurs, l'atmosphère, c'est paisible. C'est une chose que je trouve belle, qui peut me rappeler Noël, en fait, avec les vitraux et tout, les couleurs. Même si je n'y vais plus, j'ai conservé ces souvenirs de paix.
De paix. De paix, de connexion avec une dimension spirituelle, en même temps de foule, vous disiez, mais il reste une atmosphère de paix, une atmosphère de contact avec quelque chose de précieux, si je comprends bien.
Oui.
Oui.
Tout à fait. Plusieurs sphères, dans beaucoup de sens. C'est un endroit qui a interpellé mes sens d'adolescent, d'enfant.
Ah.
J'aimais l'odeur, j'aimais les couleurs, j'aimais la paix, j'aimais la sensation du vieux bois ciré qu'il y avait à l'intérieur de la chapelle, où je me retirais parce qu'il y avait moins de monde, moins de personnes. Mais en fait, ça a touché beaucoup mes sens, beaucoup, étrangement, même si c'est un endroit qui pour moi est spirituel et m'apporte la paix. C'est également un endroit qui a rejoint mes sens.
Alors voilà, c'est merveilleux parce que vous avez dans ce lien avec l'oratoire plusieurs aspects. C'est à la fois, il y a la présence du sacré et puis il y a cette sensualité au sens, ce contact avec les couleurs, les odeurs et tout ce qui nous connecte à la terre. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a vraisemblablement un lien entre cet artiste et cette sensibilité aux odeurs, aux couleurs. Et peut-être même que cet artiste a aussi un lien avec cette dimension sacrée. Et c'est pour ça que vous la rencontrez dans les couloirs de l'oratoire. Mais tout ça se tient ensemble. Hein. Vous me dites que d'un côté, vous avez été élevé à l'ombre de l'oratoire, ce qui déjà en soi est très significatif. C'est comme si l'oratoire était là, mais que vous viviez dans son ombre et vous viviez dans son influence tout à la fois sacrée, et cependant qui vous connectait à quelque chose qu'on peut vraiment dire de la sensualité, au sens la sensualité des odeurs, des couleurs, et donc qui vient magnifiquement compléter la spiritualité.
Oui, ça va me faire travailler, monsieur Jean.
Je n'ai pas tout à fait fini, je vais vous aider à éventuellement, comme on dit, pacter le rêve tout ensemble. Il reste deux éléments à regarder, que vous allez voir, qui vont sans doute vous amener à faire prendre sens de ce rêve. Vous mentionniez tout à l'heure qu'adolescente, vous alliez souvent à l'oratoire et que vous alliez dans la petite chapelle où il y avait un peu moins de monde. Dans votre rêve, vous êtes adolescente. À quel âge environ pensez-vous que vous avez Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Dans le rêve, je dirais que j'ai 14-15 ans environ, oui. Dans mon rêve, je pense que j'avais 14 ans. Plus 13-14, oui.
Et quels étaient vos rêves, mais cette fois au sens la vie rêvée que vous rêviez quand vous aviez 14-15 ans?
Quand j'avais 14-15 ans, je rêvais d'être libre. Je rêvais à la liberté parce que j'étais pensionnaire et puis je rêvais d'être libre.
Alors, et que répondait à cela votre père? Même s'il ne répondait pas directement, ne serait-ce que par ses attitudes, ne serait-ce que par la façon dont il vous présentait la vie.
Je devais faire ce que j'avais à faire. Donc je devais aller à l'école, je devais faire les choses dans les règles. Et j'ai toujours eu un petit côté rebelle. Je l'ai fait, c'est sûr, parce que je le respectais beaucoup. Mais en même temps, je me disais, il y a sûrement autre chose.
Eh bien, regardez, qu'est-ce qui se passe dans le rêve? Vous allez avec ces rêves de liberté qui vous habitaient quand vous étiez adolescente. Vous alliez à l'oratoire, qui semble être un peu votre refuge, votre point de contact avec le sacré, avec cette dimension aussi sensuelle de la vie. Vous y rencontrez une énorme araignée, une grande artiste à l'intérieur de vous, avec qui vous vous sentez bien, qui cette artisane, cette grande travailleuse, vous la ramenez chez vous, à l'intérieur de vous, et que vous dit votre père? Qu'il va falloir s'en séparer et qu'il va falloir faire ce que vous avez à faire. Sauf que ça a laissé une tristesse. Une tristesse et cependant une fascination qui continue à appeler. Cette araignée est encore là et vous n'avez vraisemblablement pas, vous n'êtes pas séparé, en tout cas vous n'avez pas coupé les liens avec elle.
Je ne crois pas. Puisqu'elle revient.
Alors, il y a peut-être quelque chose à faire pour lui donner les moyens de s'exprimer dans votre vie, pour qu'elle tisse sa toile, pour qu'elle utilise son art. Et j'en profiterai pour signaler que l'araignée qui nous fait souvent si peur, c'est un symbole un symbole universel très riche. Et par exemple, pour les Amérindiens, c'est une grand-mère guérisseuse. C'est une grand-mère guérisseuse parce qu'elle tisse les liens entre les différentes... elle tisse les liens des relations, elle restaure les relations entre les êtres. Et ça va jusqu'au mythe de femme araignée, qui est la grande déesse des Navajos, et qui tisse le monde avec ses rêves.
Et ça, c'est merveilleux, parce que je dois vous dire que vous ne le saviez pas, mais je suis d'origine amérindienne.
Ah.
Du côté de mon père, justement.
Alors, il y a peut-être quelque chose à aller restaurer, à aller chercher par là, comme le contact avec la médecine de l'araignée, tout à fait.
Oui, oui.
Hein? Vous savez, les attrapeurs de rêves, hein? Vous connaissez sans doute la légende de l'attrapeur de rêves. Hein? C'est une araignée qui, ayant été épargnée, propose ses services et dit « je vais tisser une toile qui retiendra les mauvais rêves et qui ne laissera passer que les bons rêves ». Donc, la médecine de l'araignée est très très puissante et c'est une médecine des rêves, justement. Mais c'est une médecine d'abord des relations et de l'art.
Ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ça me donne beaucoup de matériel pour travailler.
Ben merci pour votre appel. Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de partager ça avec nos auditeurs. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, Daniel, d'avoir appelé. Passez une belle journée.
Merci.
Au revoir. Ah, ben c'est intéressant. Ça, c'est vrai, les capteurs de rêves, ça devient de plus en plus important. Ça devient de plus en plus populaire. Il y en a même qui en installent dans leur auto.
Tout à fait.
Mais est-ce que... ça fonctionne comment? Parle-nous-en un petit peu de ce capteur de rêve.
Un capteur de rêve, c'est ça. La légende veut que... et c'est une légende qu'on retrouve chez plusieurs peuples amérindiens. C'est une grand-mère qui est en train de bercer... sa petite fille ou son petit-fils pour aller le coucher et qui voit une araignée sur le rebord de la fenêtre et qui l'épargne, qui la respecte. Et l'araignée se met à lui parler et lui dit « Écoute, je vais prendre soin moi aussi du sommeil de ton enfant, fils, de ton enfant. Ouais. Et elle tisse donc une toile qui s'intercale dans la fenêtre et qui attrape les mauvais rêves et qui laisse passer les bons rêves. Les mauvais rêves dans la tradition amérindienne et dans beaucoup de traditions sont tout simplement les rêves qui nous perturbent profondément, les cauchemars, et on sait comment les enfants vivent beaucoup de cauchemars, beaucoup de peurs à travers leurs rêves. Donc les attrapeurs de rêves fonctionneraient comme un filtre qui transforme ces cauchemars en des leçons qui sentent qu'on ait besoin de vivre de trop de sentiments négatifs, vont nous nourrir, vont apporter ce qu'on a besoin de savoir.
Alors idéalement, on le place à quel endroit ce que...
Alors idéalement, on place un capteur de rêve à la tête de notre lit.
Ah, dans la chambre.
Dans la chambre, oui. Ou dans la fenêtre.
Ah, ok.
Ce qui est la façon traditionnelle. La façon traditionnelle, c'est dans
pour ce
la fenêtre,
qui arrive de l'extérieur.
Pour ce qui arrive de l'extérieur. Les rêves étant censés nous visiter.
Okay. Hein?
Les peuples amérindiens, puis en fait beaucoup des anciennes traditions ne voyaient pas du tout les rêves comme nous les voyons. Pour eux, les rêves c'était un espace dans lequel nous voyagions, et c'était aussi des esprits, des dieux et des déesses et parfois des démons qui nous visitaient. Et donc, pour eux, c'était vraiment, à travers les rêves, où nous rentrions en relation avec une autre dimension du réel. Et ma foi, les psychologues, en disant que c'est l'inconscient, ne disent juste qu'ils ne savent pas d'où viennent les rêves.
Ah.
L'inconscient, encore une fois, c'est ce dont on n'est pas conscient.
Mmh.
Il y a toutes sortes de rêves. Il y a des rêves dont ils sont évidents qu'ils sont provoqués par une mauvaise digestion, on pourrait dire presque.
Mmh.
Et puis, il y a des rêves qui nous arrivent, semble-t-il, quasiment d'un espace intergalactique, tellement ils sont particuliers, tellement ils n'ont rien à voir avec notre quotidien, tellement des fois ils sont plus réels que notre vie diurne.
Ouais, ouais. Juste pour terminer avec le capteur de rêve, est-ce qu'on doit le nettoyer, entre parenthèses? Thèse, là, ou si on laisse ça comme ça?
On laisse ça comme ça. La tradition amérindienne recommande qu'une fois de temps en temps, on brûle un petit peu de sauge. Vous savez, pour la sauge, pour les Amérindiens, c'est purificateur.
Mmh.
Et dans ce cas-là, on asperge un petit peu le capteur de rêve de la fumée de la sauge, ce qui est une façon de le nettoyer. Mais il est censé avoir ses capacités auto-nettoyantes.
Auto-nettoyantes. Ah, c'est bon. Eh ben, l'émission est déjà terminée. Je remercie beaucoup les personnes qui ont téléphoné et on se revoit la semaine prochaine à la même heure et entre-temps, si vous avez des rêves, si vous avez fait des rêves, préparez vos questions et la semaine prochaine, Jean se fera un plaisir de répondre à vos questions, à vos questionnements. Merci beaucoup encore.
Merci beaucoup Jean-Paul.
Est-ce qu'il y a un site internet? Comment on peut te rejoindre?
On peut me rejoindre en allant voir mon blog, qui est le blog de La Voix du Rêve. Alors, c'est http://voixdurêve.blogspot.ca.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Faites de beaux rêves.
À la semaine prochaine.
fait réaliser et tu me fais mal comme un rêve dont il va falloir m'éveiller.